Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue pour ce 45e épisode de Spiritualista. Mon invitée est une ex-docteure en médecine qui a décidé d'explorer la santé intégrative en se formant au yoga, à l'ayurveda et à la méditation. Elle est aujourd'hui coach éco-féministe à travers notamment de son école en ligne Tribe Empowering School. Mon invitée a même fondé en 2014 l'Institut de santé intégrative. Ces derniers jours, j'ai parcouru avec passion son dernier livre « Devenir sa propre médecine » aux éditions Erol. Mon invitée, c'est Nathalie Guita-Babourache. Bienvenue, Nathalie, dans Spiritualista.
Merci, Amel. Merci pour ton invitation.
Bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir là. On va clôturer cette deuxième saison de Spiritualista. Et avec toi, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on échange autour de la décolonisation de nos croyances, du pouvoir des cercles de guérison. Il y a un truc aussi que j'adore, que tu abordes super bien dans ton livre, c'est la médecine de l'homme blanc. On va se demander si elle prend trop d'espace. J'aime aussi, c'est vachement aligné avec ce qu'on vit en ce moment, l'empowerment qui naît du chaos. Ça, c'est vraiment magique. Et un truc que j'adore aussi, c'est comment lever le fameux complexe de la sorcière. Alors, Nathalie, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Je sais que tu l'as écrit, tu as commencé à l'écrire pendant le premier confinement, c'est ça?
Exact.
Et donc, toi, justement, c'est cette espèce d'idée du chaos, toi qui as été médecin pendant de nombreuses années, de voir un petit peu ce qui se tramait, comment les ficelles étaient tirées, quelque part. Est-ce que ça t'a mis en colère? Comment t'as géré cette énergie?
Ah, clairement, oui. Il y a une énergie, il y a une émotion de colère qui m'a parcourue au moment du premier confinement. Puis derrière la colère, il y a aussi eu de la peur, puis de la tristesse, puis de l'anxiété, et j'ai envie de dire, ça continue encore, hein. Je valse avec toutes ces émotions, mais je me dis qu'elles sont là pour quelque chose, et pour répondre à ta question de comment m'est venue l'envie d'écrire ce livre, donc c'est mon troisième livre. Initialement, au moment du premier confinement, je voulais écrire un roman pour vraiment me libérer de l'actualité du moment, tout en l'intégrant. Tu vois ce que je voulais dire? J'avais l'impression que ça me donnerait plus de liberté, en fait, d'avoir une héroïne fictive.
Oui.
J'avais envie qu'elle soit étudiante en médecine et qu'elle se pose des questions sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Mm-hmm. Pas qu'au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'écologie, au niveau de la politique. Enfin, pour moi, tout est intriqué.
Oui.
Et je n'arrivais pas à accoucher de ce personnage. Et je me suis rappelée, il y a 3-4 ans, j'avais échangé avec Anne Guéquer, donc qui travaille avec Erol. Ouais. Et elle m'avait dit, mais tu devrais écrire un livre sur ton parcours de femme médecin, femme médecine. Mmh. Et à ce moment-là, ça ne me parlait pas trop. Je ne me sentais pas légitime de parler de ça. Et vu que je n'arrivais pas à accoucher de mon personnage, c'est là où il y a quelque chose qui m'est venu de l'ordre. Mais pourquoi tu ne parlerais pas de ta propre histoire, en fait?
Bien sûr.
Partager tes explorations de femmes, de médecins connectés au vivant, qui ont envie de comprendre comment fonctionne cette magie du vivant et qui observent aussi les limites de nos systèmes, parce que ça fait 15 ans en fait que je m'intéresse à ce qu'on appelle la santé intégrative. Et en fait, pour moi, tout est déjà là. On vit une période où les neurosciences viennent confirmer ce que les sagesses ancestrales nous disent depuis 5000 ans. Tout serait là, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à accoucher de ce nouveau monde avec cette réalité qui est que nous avons notre médecine en nous. Et rien ne nous empêche d'aller nous connecter à d'autres médecines, dont la médecine occidentale, quand il y en a besoin. Mais pour moi, il y a quelque chose, ces 2 dernières années nous ont montré qu'il y a un monopole, plus ou moins inconscient, qui est exercé par la médecine occidentale. Et c'est là où j'ai commencé à creuser un petit peu dans l'histoire de la médecine occidentale. Et ça, je dirais que c'est un peu le fait d'avoir voyagé dans différents lieux, d'avoir habité dans différents lieux. Tu vois, je suis née en France, mais j'ai grandi en Inde. Je suis revenue en France pour mes études. Et ces 5 dernières années, j'habitais en Guadeloupe.
Oui.
Et donc ça m'a permis d'aller creuser un petit peu sur cette version d'histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école. Parce que j'ai été aussi pas mal au Québec et en Guyane, en Amazonie. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Nous, on voit la période des explorateurs qui ont découvert le Nouveau Monde. En
Bien
tout cas,
sûr,
moi, dans mes
des
cours d'histoire,
conquistadors.
voilà, c'était quelque chose de passionnant, de ça y est, c'était le Nouveau Monde, mais je n'avais pas du tout calculé que c'était aussi le début de la colonialisation,
Bien
de
sûr.
l'esclavage, du capitalisme à outrance. Et en fait, je me dis, mais notre société est construite sur ça, et la médecine occidentale est construite sur ça aussi. Et moi, dans mes cours d'histoire en médecine, on ne m'avait pas appris ça, tu vois.
Mais tu m'étonnes. Mais j'ai adoré, j'ai aimé vraiment sincèrement ton livre. Il m'a énormément inspiré justement sur cette notion de la décolonisation de nos croyances. Et j'aime beaucoup comment tu parles du fait de s'inspirer des médecines autochtones. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais au Pérou et au Mexique. Et donc, forcément, j'ai voulu comprendre d'où venait leur médecine, leur système de croyances, leurs croyances aux esprits des plantes, comment ils géraient les molécules des plantes, comment ils rentraient en interaction et tout ça. Et forcément, j'ai compris aussi que ces premiers colons ont récupéré, tu vois, les molécules originelles et du vivant pour les transformer pour l'industrie pharmaceutique. Et que plus de la moitié en fait des molécules qui nous soignent aujourd'hui dans l'industrie moderne viennent justement, tu vois, de ces molécules-là. Et j'adore, il y a une phrase que j'ai récupérée directement de ton livre, je la lis. En coupant les personnes de leur milieu naturel, de leur culture, de leur savoir médecine, toi tu considères ça comme un crime contre l'humanité. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Nathalie?
Oui, alors ça a été un moment difficile d'écriture parce que c'est assez fort comme affirmation, mais en même temps, je pense que c'est une réalité et c'est important de faire face, d'accueillir cette réalité, ce dragon, j'ai envie de dire, c'est comme ça que j'appelle toutes ces zones d'ombre de l'humanité, mais qui sont aussi en chacun et chacune de nous. C'est ça qui est intéressant. C'est l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de se dire, ok, c'est en nous, et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Par rapport à cette appellation, enfin le fait que je parle de crime contre l'humanité. Je me rends compte que même aujourd'hui, tu vois, il y avait un documentaire qui était sorti qui s'appelle Mon médecin indien, Mon docteur indien. Il est sorti sur Arte et c'est l'histoire d'une Française qui amène son médecin, son oncologue en Inde pour découvrir l'Ayurveda et comment elle s'est soignée finalement sans passer par les protocoles classiques de médecine occidentale. Alors, c'est intéressant parce que le médecin est très ouvert. Déjà, il a fait la démarche d'y aller. Super. Mais même là, ce que j'avais observé et que je trouvais ça intriguant, c'est que dans son attitude, c'est « Ah oui, d'accord, vous utilisez telle ou telle plante. Je vais en prendre quelques-unes, les amener dans mon labo en France, analyser les molécules. » Et pour moi, il y a quelque chose qui est allé réveiller questionnement en moi. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est dans ton expérience au Pérou et… C'est qu'en fait, au moment de la décolonisation, la vérité de l'homme blanc est venue s'imposer et en effet, ils ont extrait certaines choses, certains savoirs des populations autochtones. Ils en ont gardé, eux, ce que la science, leur science, validait et puis tout le reste, ils l'ont même interdit de pratiquer.
Exactement.
Si je prends l'exemple des autochtones, des Amérindiens, on leur interdisait de chanter, par exemple, parce qu'on se rendait compte que ça les solidarisait, et puis en fait, ça pouvait être un risque pour ce que les colons apportaient dans ces territoires-là. En Inde, par exemple, la médecine ayurvédique a été interdite au moment de la colonisation anglaise. Ça, on ne le sait pas, en fait. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très à la mode. Tout le monde veut partir faire des cures ayurvédiques en Inde. Mais on n'oublie pas qu'il y a à peine 50 ans, à l'époque de mes grands-parents, par exemple, c'était mal vu, interdit et pas reconnu, en fait, puisque c'est la médecine occidentale en Inde, dans les universités, qui était reconnue.
En fait, c'était un petit peu la façon dont se soignent les sauvageons, quoi, tu vois, ces peuples qui ne sont pas éduqués. C'est incroyable, en fait, comme tactique de manipulation et de détournement. C'est fou, je trouve.
Oui, mais c'est encore utilisé. La preuve, il y a quelques mois, notre ministre de la Santé a sorti à l'Assemblée nationale, quand même. C'est pas avec la médecine ayurvédique ou la soupe aux orties qu'on va soigner le Covid.
Ouais.
Moi, c'est grave. Parce que certes, c'est peut-être pas que avec ça,
mais oui, en tout cas,
ces approches permettent de renforcer notre immunité, notre terrain, et moi je peux te dire l'exemple à moi, pas que avec la vaccination qu'on va sauver les gens du Covid, enfin tu vois.
Évidemment.
À chaque fois, argumenter en fait.
Ouais.
Et c'est là où derrière ce propos que j'ai posé de crime contre l'humanité, c'est que derrière tout ça, il y a eu aussi d'énormes génocides en fait. Que ce soit chez les populations autochtones en Australie, aux Amériques. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est des gros trous dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire qu'on nous l'enseigne. Et je pense que c'est vraiment important de mettre en lumière tout ça pour éviter de reproduire ce même système d'oppression.
Totalement, je suis absolument d'accord. Oui. En fait, ça cristallise énormément de violence et d'injustice. Et finalement, ce qu'on comprend aussi, c'est ce système capitaliste qui ne voit que le profit, en fait. Et du coup, l'humain, le savoir ancestral, c'est pas monétisable, en fait, pour eux, tu comprends. C'est un storytelling qui n'est pas à leur avantage. Et il y a une phrase aussi qui m'a percutée, que j'ai lue il y a quelques temps et qui est totalement alignée avec ton partage. C'est quand on coupe une personne de sa mémoire, on la coupe de son pouvoir. Et c'est exactement ça, tu vois, parce que moi, je suis aussi d'origine marocaine et j'y ai vécu. Et j'ai vu comment les grands-mères soignent les enfants quand ils ont de la fièvre. J'ai vu toutes les petites tactiques vraiment qu'on appelle les recettes de grand-mère qui fonctionnent réellement et que c'est des choses voilà qui se transmettent. Et c'est vraiment puissant parce que là pour le coup on parlait du pouvoir de l'argent. Récupérer un oignon au fond de ton jardin. Enfin tu vois ce que je veux dire. C'est t'as pas besoin d'aller chez le médecin. T'as pas besoin d'aller récupérer des médocs. Enfin puis c'est naturel.
Tout à fait, ouais. Et c'est, mais ce qui est dommage, en fait, encore une fois, pour revenir sur cette notion de crime contre l'humanité, déjà, moi, ma famille en Inde, quelque part, les jeunes générations se sont déjà coupées de cette mémoire de nos grands-parents, de nos ancêtres, et je trouve ça dommage, parce que tout de l'Occident est devenu vraiment le Graal. J'espère juste que, voilà, si nous, maintenant, en Occident, on commence à reconnecter. À ces sagesses ancestrales, et pas forcément en allant à l'autre bout du monde. En fait, tous les peuples ont une sagesse ancestrale à leur manière. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se recoupent.
Évidemment.
Et du coup, ça, c'est une autre manière aussi d'évaluer les effets d'approches comme ça, où là où, encore une fois, de la même manière que je parlais du monopole de la médecine occidentale, on a aussi le monopole de la science occidentale. C'est-à-dire qu'on utilise, les gens, par exemple, ne savent pas comment ces deux dernières années, on a pris des décisions politiques basées sur un type d'évaluation scientifique, alors qu'il y en a, des milliers, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs.
Bien sûr.
Il y a des évaluations qualitatives, il y a des évaluations plus basées sur les sciences humaines, et on sait que l'humain et le vivant, en fait, ça ne rentre pas dans des cases, ça ne rentre pas dans des algorithmes. Malheureusement, on est resté vraiment sur des études statistiques qui part du principe qu'on est tous pareils, qu'on fonctionne tous pareils, qu'on s'adapte tous pareils, ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, on est très...
Mais oui, mais tu sais, ça me faisait penser, quand je lisais ton livre, Nathalie, qu'on est tout le temps en train de penser le transhumanisme, ça arrive. En fait, je trouve que dans le mindset, dans l'approche psychologique, en fait, le transhumanisme, il est déjà installé dans tu vois, dans plein de côtés de notre société, en fait. Et justement, le fait de vouloir quelque part, au travers de la médecine et du soin, nous standardiser, pour moi, c'est une approche du transhumanisme. Tu vois, le fait de ne pas être sur quelque chose de personnalisé, de propre à chacun. Par exemple, à l'Ayurveda, j'ai enregistré un épisode avec Amel de The Inner Journey, que tu connais aussi.
Oui.
Et du coup, juste le fait d'exprimer, tu vois, les compositions, comment notre corps est fait, les influences feu, air, eau, tu vois. Moi, ça m'a apporté énormément de choses, énormément de clés de compréhension, en fait.
Et surtout, ça t'a remis dans cet espace d'empowerment où tu comprends,
exact.
Tu réappropries ton corps, tes émotions, tes énergies et tu dis « Ah bah d'accord, je comprends. Pourquoi est-ce
mais
que quand je ressens énormément de feu, je suis comme ça? Comment est-ce que je vais pouvoir rééquilibrer ?» Enfin, tu vois, il y a tout un…
C'est mais hyper intéressant. Mais tu sais que c'est drôle parce que finalement, c'est vraiment comme si c'est une clé que tu t'appropries. Exemple très pratique, je vis en colocation à Barcelone, il a fait très chaud ces derniers temps et ma coloc croque des glaçons. Elle adore faire ça. Et moi, chaque fois que je la vois faire, si tu veux, moi je suis pita dominant. Et donc, je la vois faire et elle m'en propose tout le temps et je lui dis mais non, mais je suis incapable de croquer un glaçon, je suis incapable de boire un verre d'eau avec un glaçon, tu vois. Et finalement, je l'ai compris parce que je suis tellement feu, tu vois, ça ne peut pas fonctionner. C'est hyper bizarre de mettre des mots dessus, mais pour moi, c'était logique. Et vraiment, puis ça te replace dans un écosystème, tu te reconnectes aux éléments, en fait. Enfin, moi, ça me
parle. La nature, ça te reconnecte direct. En fait, tu te rends compte que tu n'es pas séparé d'elle et que du coup, tu ne peux pas te mettre au-dessus d'elle et l'opprimer et l'extraire et pas la respecter.
Exactement. Non, mais c'est vraiment, c'est des enseignements très, très puissants.
Spiritualista.
Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est lié parce que j'adore être entourée de femmes et discuter avec des femmes. Et je me rends compte que naturellement, intuitivement, le fait d'être entre femmes, ça libère vachement la parole. Et que bien souvent, dans l'échange des expériences et des émotions qui nous traversent, notre vision du monde, on crée un espace finalement de guérison intuitif, simple, qui fait du bien. Je sais que toi, c'est une approche qui t'est chère aussi, les cercles de guérison. Est-ce que tu peux nous parler de la magie qui se révèle au travers de ce système-là?
Et du coup, j'ai aussi envie de parler de mon rapport aux femmes avant de découvrir justement cette forme de connexion intuitive, de reconnexion aussi à cette vibration de la sororité. Moi, avant, les femmes, en fac de médecine, si tu veux, à l'hôpital, il y a une majorité de femmes. Mais pourtant, je me suis toujours sentie mal à l'aise, en concurrence, dans une forme d'énergie de compétition, de jalousie. Et je me sentais vraiment pas à ma place. Et du coup, d'ailleurs, j'ai même fait un rejet. C'est pour ça que mon premier poste, j'ai choisi un poste de médecin de prévention chez les pompiers de Paris, c'est-à-dire 90% d'hommes.
Oui.
Donc, et je pense que j'ai eu besoin d'explorer ces extrêmes-là. Pour au moment où j'ai commencé à m'intéresser, moi, à mon corps de femme, aux énergies du féminin, du masculin, et quand j'ai découvert les cercles de femmes, en fait, j'ai réalisé qu'il se passait autre chose quand on pose le cadre de sécurité, de bienveillance, et qu'on lâche un petit peu tout ce que le patriarcat nous a un peu dit dans la tête et dans le corps même. Il y a vraiment tu vois, pendant un petit moment, à l'époque où j'avais l'Institut de santé intégrative, je proposais des cours de cuisine ayurvédique. Et au-delà du sujet de l'Ayurveda, je réalisais que les femmes se sentaient assez en sécurité pour déposer des choses qu'elles n'avaient jamais déposées ailleurs.
Oui.
Simplement parce qu'on avait fait juste avant une pratique de respiration ou de yoga ou de reconnexion aux énergies qui sont dans notre bassin, dans les premiers chakras. Et là, ça ouvrait une autre porte. Un peu comme... tu vois, dans les contes des mille et une nuits, dans les alcôves, il y a un truc de l'ordre du secret, du mystère et de la bienveillance.
C'est ça.
Et en fait, c'est des espaces qui n'existent plus aujourd'hui, en fait, dans le monde conventionnel. Et je pense qu'on est vraiment en manque de ça, d'espaces où on peut se connecter à nos neurones miroirs, où on sait qu'on ne va pas être jugé et qu'en fait, de réaliser que nous vivons, même si on est chacune différente, nous traversons les mêmes questionnements, les mêmes sensations d'avoir à un moment donné donné notre pouvoir à l'extérieur, de nous être coupés de notre corps, de nous être coupés de qui nous sommes en termes de vibration et d'être vivant. Et du coup, rien que ça, pour moi, ça répare. Il y a vraiment cette vibration de guérison qui est portée par toutes. Là aussi, en plus, on sort de la pyramide où dans des conférences classiques, il y a un expert qui a un savoir et qui nourrit les autres de savoir. Là, en fait, on est toutes, on tient tout l'espace à l'horizontale et on fait circuler un peu la parole, la présence, le silence, tout ce qui, tout ce qui émerge est bienvenu, en fait. Donc, c'est une autre manière de, d'être.
Tu sais, Nathalie, juste entendre en parler, j'ai un, comme un frisson qui me traverse. J'ai limite les larmes aux yeux parce que, en fait, on a conscience que c'est une organisation qui est organique, naturelle, biologique. Et tu sais, ça me fait penser à une conversation que j'avais avec une amie, Dora Mouto, qui a écrit le livre « Mal baisé ». Et en fait, en discutant, on se rendait compte que, en tant que femme, on a, moi, je sais que je suis célibataire depuis pas mal d'années maintenant, et mon corps de femme a soif, en fait, de, je fais énormément de massages parce que mon corps a besoin d'être touché, en fait, a besoin de ressentir des mains qui le parcourent, de sentir du bien-être, du soin, de l'amour aussi, quelque part, par ces soins-là. Et en fait, on était arrivé à une théorie, tu me diras si ça a du sens pour toi, c'est que bien souvent, les femmes en couple hétéro, ont plus besoin de tendresse que de sexualité, et que bien souvent, les femmes vont aller chercher cette tendresse, juste le fait d'être serrée dans des bras comme ça, d'être cajolée et d'être bien, au travers du sexe. Et je trouvais cette idée très intéressante, ça a ouvert une porte où je me suis dit, il y a des espaces, des cercles de guérison, mais j'ai l'impression que bien souvent, on aurait aussi besoin genre, de se toucher entre femmes, en fait. De se masser. Je sais qu'avec ma sœur, on le fait assez souvent. On le fait entre nous, tu vois. On s'échange des massages, mais depuis qu'on est gamine. Et qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ça me parle complètement. Du coup, c'est moi maintenant qui ai des frissons, tu vois. Parce que en écoutant, je pense qu'on réactive des mémoires cellulaires de ces époques où nos arrière-grand-mères, les femmes d'autres générations, se retrouvaient justement à la fois pour libérer la parole, mais aussi pour, comme tu disais, se connecter dans le toucher, dans la reconnaissance, dans... Et c'est complètement physiologique, en fait. On a besoin de... On le sait aujourd'hui que les câlins, que les massages, sans être dans la technique...
Les papouilles.
Oui, les papouilles, en fait, ça nous stimule l'ocytocine, notamment, cette hormone de l'amour. Et en fait, quand tu disais, même les femmes qui sont en couple hétéro, quand elles recherchent ce type de connexion, bah, elles passent, du coup, parce que... par la voie de la sexualité, mais c'est encore une fois, c'est parce qu'on est tellement imprégné des dictates du patriarcat. La seule manière de connecter avec un autre être humain du sexe opposé, c'est le sexe.
Mais oui, c'est terrible quelque part, je trouve.
Bah, c'est terrible, mais en même temps, le fait, encore une fois, de mettre en lumière ce dragon, c'est tiens, c'est quoi le cadeau derrière ? Maintenant, on a repéré ce fonctionnement qui ne nous nourrit pas, comment on pourrait transformer ça ?
Non, mais c'est vrai, c'est à chaque fois une pensée et une évolution de... qui est proactive. Se dire, ok, là, il y a une pseudo-limite et une compréhension qui est un peu erronée. Comment aller comment mettre ça en lumière et aller vers quelque chose de meilleur ? Et c'est chouette, je trouve.
Le chaos, même si c'est très inconfortable, c'est anxiogène et voilà, on a envie que ça se termine parce qu'il y a une vraie confusion qui peut nous prendre. Mais en même temps, c'est tellement, comment dire, profond que pour moi, c'est l'une des manières justement de faire un vrai reset de toutes nos pensées limitantes, de tout, tout ce qui a fait que on s'est éloigné quelque part de notre étincelle, de vie, de cette dimension de l'âme qui est venue s'incarner sur cette terre pour vivre des expériences et pour vibrer ses dons et ses talents uniques. Justement, le chaos devient un cadeau.
Exactement. Et tu sais, cette vision-là que tu défends aussi dans ton livre Devenir sa propre médecine, c'est l'empowerment né du chaos. Et j'adore. Je trouve ça incroyable et tellement juste en réalité, parce que c'est vrai que ça nous pousse à doper notre créativité, à se dire ok, là, il y a un mur. Mais il y a des issues. Je vais chercher les issues, en fait, et je vais les prendre, quitte à découvrir un champ des possibles que mon cerveau ignore absolument, mais je me jette là-dedans. Comment, d'après toi, Nathalie, on peut gérer au mieux le chaos ?
Tu vois, moi, je parle de résilience créatrice, en fait.
Oui, c'est ça.
Quand on est À un moment donné, je parle des quatre éthers que notre cerveau. Et quand je dis notre cerveau, c'est pas que la partie dans la boîte crânienne, c'est de manière générale tout le système nerveux et aussi nos autres intelligences du cœur, du ventre, les tripes.
Oui.
Mais en fait, on a encore une fois, on a tellement été conditionné par une science linéaire et monochrome qu'on pensait que le cerveau, c'était analyser, projeter de manière linéaire et contrôler. Et ça, ça a créé une forme de pyramide, justement, dans notre société.
Oui.
Où tout est contrôlé par des experts et finalement, le sommet de la pyramide est coupé de la base.
C'est l'idée aussi de chaque fois, ce système de pyramide, il nous... En fait, on laisse notre autorité, notre souveraineté à d'autres qui, soi-disant, connaissent mieux pour nous ce qui est le mieux pour nous, en fait.
C'est ça. Et on nous le vend en nous disant, on va vous faciliter la vie.
Exact.
Ça, c'est le genre de choses aussi où il faut observer. Quand on a un discours en face de nous de quelqu'un qui dit, mais c'est pour vous faciliter la vie, réfléchissez d'abord. Est-ce que ça va vraiment me faciliter la vie? Est-ce que ça va vraiment me donner ma liberté?
En général, pour moi, c'est un peu un red flag. Je me dis, là, il y a une douille. Il y a une douille.
Exactement. Et en fait, des neuroscientifiques, mais aussi des spécialistes des sciences cognitives, et j'ai envie de dire même les astrophysiciens commencent à dire, c'est qu'en fait, le cerveau est aussi capable de naviguer dans un système plus horizontal où tout est interrelié, où il n'y a pas un chef qui prend la décision pour les autres. Là, on rentre dans toutes les théories systémiques, en fait, où on parle du complexe. Et du coup, c'est vrai que ça apporte des degrés de complexité, mais là encore, rappelons-nous que notre physiologie est capable de naviguer dans le complexe. Et la dernière phase, c'est le chaos, où en fait, il n'y a plus, en apparence, plus de lien entre les faits, les conséquences. Et c'est là, en général, où avant, une personne rentrait dans cette phase de chaos quand elle vivait un burn-out, ou une rupture relationnelle, ou une maladie, ou un deuil. Et là, j'ai envie de dire, depuis 3 ans, je crois qu'on est... plonger l'humanité entière et plonger dans ce chaos. Et alors certes, encore une fois, c'est très inconfortable, mais pour moi, c'est encore une fois un cadeau parce que le fait de le vivre à plusieurs, je veux dire à l'échelle mondiale, ça fait comme un vortex, j'ai envie de dire. Et c'est là où moi, les notions de physique quantique que j'ai découvert, notamment grâce à des personnes comme Deepak Chopra, m'aident beaucoup. C'est que en fait, pour créer une nouvelle réalité, nettoyer de schémas ancien, ce qu'on appelle le karma, on a besoin de passer par une phase chaotique et on a besoin de faire le grand saut dans le vide, ce fameux saut quantique.
Ouais.
Et c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un mur en face de toi, comment tu fais? C'est de faire confiance. Là, c'est pour moi ce qui m'aide vraiment à traverser cette période-là, qui est certes très déstabilisante. C'est première chose, c'est de sentir cette foi en la vie tous les jours. Quand ça va bien, bien sûr, mais aussi quand ça va mal.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
À fond.
Que tout est cyclique et que tout est une facette de la réalité, mais que la réalité est beaucoup plus complexe. Et je le dis au début du livre, en fait, on ne connaît que 0,01% du vivant, finalement. La matière.
Non, mais ça, là, mais ça, c'est vraiment... Tu sais, parfois, il y a des phrases ou des punchlines qui pulvérisent totalement, tu sais, ta vision de la réalité. Et je t'avoue que cette data, elle est extraordinaire, en fait. Se dire qu'on ne connaît que 0,001% de ce qui est. Mais waouh. Tu vois, c'est extraordinaire.
Ben c'est clair, et ça nous ramène à ce deuxième point, moi, qui m'aide beaucoup aussi pour traverser ce chaos, c'est l'humilité. Se dire, waouh, en fait, plus on avance, moins on sait. Et c'est OK.
C'est ça.
Alors, tu vois, moi, ça m'a demandé un sacré déconditionnement, parce que quand t'es bac plus 10, 12,
wow.
Et on est toujours venu te voir justement pour ton expertise, pour oui. Prodiguer des conseils, pour. Et là, au fil du temps, de me dire, mais en fait, je ne sais pas plus que toi. Au contraire, finalement, moi, j'ai été conditionnée, programmée, et j'ai besoin en plus de déprogrammer tout ça. Et alors que finalement, toi, tu sais beaucoup plus de choses sur toi, ton corps, ta vie.
C'est ça. Mais justement, comment t'es arrivée, toi, Nathalie, à sortir de la prison sans barreaux de ton conditionnement?
Je ne sais pas si je suis complètement sortie. Hein. Franchement, pour moi, c'est un work in progress.
Exact, oui.
Mais j'essaie d'y mettre de plus en plus de douceur, de légèreté et du jeu, de jouer avec, d'avoir conscience que, ben, en fait, déjà de faire la paix avec mon ego, ça c'est un sacré job. J'ai essayé de le repousser parce que quand j'ai plongé dans l'univers de la spiritualité, je pense comme beaucoup, j'avais intégré que l'ego c'était mal, qu'il fallait se connecter directement à la conscience universelle, là où il y a tout est amour inconditionnel, ce qui est une part de la réalité. Mais il ne faut pas oublier qu'on a décidé de s'incarner sur Terre et que si on n'a pas d'ego, en tout cas pour le commun des mortels, ben on ne peut pas s'incarner.
Oui.
Et vous avez entendu récemment une podcasteuse que je suis, américaine d'origine iranienne, Sarah Rose, qui dit « L'ego, c'est le garde du corps de l'âme.
Oui. »
C'est pas mal.
Oui. Oui, j'adore cette image. Exactement, oui.
Et en fait, de réaliser que l'ego, il est là pour nous protéger, mais c'est à nous de rassurer en permanence et l'amener dans ses sorties de zone de confort pour lui proposer d'explorer des nouvelles réalités et de rassurer qu'on n'est pas tout seul. En fait, ça aussi, c'est une autre partie qui m'aide beaucoup. Et c'est là où, tu vois, on parlait des cercles de guérison tout à l'heure. Dans cette traversée, je crois qu'on a besoin de le faire en collectif. C'est une guérison collective qu'on a besoin de vivre.
Mm-mm. Mais oui, mais j'avais dit dans un épisode qu'on on vivait un peu une thérapie de groupe tous ensemble.
Oui, c'est ça.
Et que du coup, ben voilà, on est tous un petit peu là les uns pour les autres. On suit l'évolution des uns et des autres. Et ça me fait penser, tu sais, Nathalie, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé ton partage parce que forcément, ça résonnait en moi, tu sais, le fait d'être dans une corporation. Tu vois, moi, j'ai été journaliste pendant 13 ans. Mmh. Et si tu veux, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme et j'ai toujours intégré des rédactions parce que le fait de penser en dehors des boîtes, c'était toujours une plus-value dans des rédacs, tu vois. Mmh. Enfin, j'arrivais avec des angles différents et j'avais une certaine liberté de ton que les personnes conditionnées, tu vois, habituées à écrire des dépêches AFP, n'avaient pas forcément ou avaient perdu en cours de route dans leur conditionnement. Et tu vois, avec les deux années dernières, les dernières années, tout le prisme, l'arc Covid, j'ai été face à cette limite-là où ma liberté de ton commençait à déranger. Tu vois, je travaillais à Radio France, donc à la radio gouvernementale, hein, la radio étatique. Et moi, rapidement, quand j'ai vu arriver l'arc Covid dans le narratif, dans le script imposé, j'étais à côté, en fait. J'étais pas du tout alignée avec tout ça. Et j'étais en colère et ça me rendait triste. Et je voyais tout le monde autour de moi devenir, tu vois, propagandiste d'État. Et je me disais, mais putain, mais la liberté, elle est où? La liberté de ton, de parole? Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et j'étais tous les soirs à l'antenne. Et donc, forcément, on le ressentait et on le voyait. Donc, si tu veux, je me suis auto-sabotée à la fin de la saison dernière parce que ça devenait invivable pour moi. Et donc, voilà, ça s'est arrêté.
Bravo d'avoir traversé ça comme ça. C'est pas évident hein, d'être infiltré, entre guillemets.
Ouais, totalement.
Mais moi, je suis persuadée que même si... je suis sûre que tu as planté des graines, en fait. Et qu'un jour, tu t'y attendras pas, mais il y a des personnes qui vont te contacter et te dire, non, mais en fait, ça résonnait pour moi, ça vibrait pour moi, ta posture. Mais je me sentais pas les épaules. Je me sentais pas assez en confiance pour sortir de ce système et affirmer et oser exprimer ma vérité.
Oui, bah oui, bien sûr, je comprends complètement, hein. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te poser cette question, Nathalie. Toi, donc du coup, dans cette corporation, tu vois, c'est comme une fraternité, la médecine, c'est comme le journalisme. Comment tes anciens collègues, collaborateurs ont ressenti justement ce pied de côté que tu es en train de prendre avec la médecine intégrative, holistique? Quel ressenti ils avaient?
Alors en fait, tu vois, je réalise que moi, j'ai fait plusieurs coming out spirituels. Le
Oui.
premier, c'est au moment où j'ai coupé, je suis sortie du système militaire, j'ai quitté les pompiers de Paris pour explorer un petit peu le monde de la santé et ensuite créer l'Institut de santé intégrative. Déjà là, j'avais encore des contacts avec mes anciens collègues et on va dire les plus curieux, ils sentaient que c'était une voie vers laquelle ils allaient aller. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont osé apporter plus d'humanité, plus de vision intégrative, ne serait-ce qu'en pratiquant eux-mêmes peut-être la méditation, par exemple, ou tu vois.
Oui.
Donc il y a une sorte d'éveil de conscience déjà pour soi en tant que soignant, et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont allés un peu plus loin à proposer à leurs patients. Mais j'ai envie de dire, là, depuis 3 ans, j'ai un autre coming out spirituel encore plus profond. Et là, du coup, je pourrais pas te dire mes anciens collègues où est-ce qu'ils en sont. Ce que j'observe, par contre, il y a 2 ans, j'avais rejoint le collectif Réinfo Covid.
Oui.
Et là, j'ai été étonnée de voir autant de médecins et de soignants, hein, parce que finalement, c'est tous les
Oui.
soignants de médecine conventionnelle, infirmiers, aides-soignants, en
Oui.
burn-out.
Et oui, tu m'étonnes.
Et avec cette sensation d'avoir été trahi, parce que
Oui.
la première année, on t'applaudit tous les soirs parce que t'es un héros, machin, tout ça.
Mmh.
Et après, l'année d'après, on te suspend parce que tu remets en question
Ouais. Une
la.
injonction, une
Ouais.
obligation vaccinale, ouais.
Et il y en a plusieurs qui, même en Guadeloupe, hein, qui ont été suspendus pendant plusieurs mois et qui ont décidé en fait de quitter la blouse blanche. Donc ça, on n'entend pas parler encore beaucoup dans les médias classiques, mais je pense que ça va, dans les mois à venir, on va en parler. Et puis là, oui, il y a un vrai switch en fait qui se passe, qui est encore, on va dire, entre guillemets, souterrain,
Oui.
mais ça va exploser là, je pense, parce que
Oui.
c'est plus possible de continuer comme ça. Et pour les soignants, et pour les soignés, et j'ai envie d'inclure aussi les thérapeutes de médecine alternative, parce que j'en parle aussi dans mon livre, c'est que le problème, c'est qu'on garde ces codes du patriarcat, même dans l'univers des médecines alternatives et dans l'univers
Absolument.
de la spiritualité.
Mais oui, j'ai adoré l'énumération que tu as faite quand tu parlais entre autres, de Bruce Lipton. En fait, tu as fait un enchaînement de noms de personnes inspirantes, tu vois, notamment aux États-Unis, qui parlent de médecine holistique, médecine quantique et tout ça. Et tu disais, mais où sont les femmes et les femmes de couleur dans cet écosystème, en fait? Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, parfois, tu mets un spot sur une réalité qu'on n'a pas captée. Et je dis, mais finalement, même dans les médecines dites alternatives, on retrouve encore l'omniprésence de l'homme blanc.
Oui, et puis même sans aller aux États-Unis, en fait, regarde ici en France, quand on parle de méditation, de spiritualité dans le milieu de la santé, on va tout de suite
Oui.
dire Christophe André.
C'est
Euh,
vrai.
et, et pourtant, moi, je connais plein de médecins femmes, certaines d'origine étrangère, qui pratiquent, qui s'ouvrent à la spiritualité et qui le transmettent. Et pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas? Là encore, les médias, tu connais, du coup,
Oui, très bien.
il y a un système, encore une fois, pyramidal, qui va cibler l'expert, l'homme blanc de plus de 50, 60 ans. Et j'ai rien contre eux, en fait.
Non,
C'était là
pas
aussi
du tout.
délicat pour moi d'écrire ça, mais en même temps, heureusement, quelque part, qu'ils ont pu ouvrir ces espaces-là. Mais pour moi, il ne faut pas juste s'arrêter à là. C'est ça le.
Ouais, puis il y a aussi, t'abordes aussi ce thème-là dans ton livre, c'est le whitewashing, c'est ça en fait, c'est cette capacité à tout rendre blanc en fait, mais dans l'idéologie, tu vois, ça me fait penser, tu vois, dans les années 60-70, ces Américains, Américaines qui allaient justement en Inde, qui s'initiaient au yoga, à l'Ayurveda, et qu'ensuite revenaient aux États-Unis ou en Europe et qui lançaient leur business. Et en fait, pourquoi, comment tu l'expliques, toi, Nathalie, que bien souvent, quand toutes ces sciences, ces connaissances étrangères sont implantées en Europe ou aux États-Unis, sont validées quand elles sont ramenées par des personnes blanches. Pourquoi, en fait ? C'est un gage de qualité ou c'est plus facile, c'est plus marketable ?
Peut-être qu'il y a le côté plus marketable, mais moi, en fait, ce que j'avais observé, prenons l'exemple de la méditation de pleine conscience, qui connaît vraiment aujourd'hui un succès mondial, grâce à Jon Kabat-Zinn, qui est un chercheur, du coup, qui a monté des études pour démontrer l'efficacité et l'intérêt de cette pratique. Et en fait, pour moi, là où ça rentre, c'est qu'en effet, c'est structuré de telle sorte à pouvoir faire un protocole d'évaluation. Tu vois, ça répond à des normes scientifiques.
Oui.
Ça rentre dans des cases et du coup, on peut faire une mesure avant et après. Donc après, c'est facile de le diffuser à travers des formations, dans des hôpitaux, dans différents centres, et de le modéliser. C'est modélisable. Et le fait d'avoir enlevé aussi les connotations plus spirituelles, ésotériques, ça permet à des occidentaux qui sont pas forcément ouverts d'intégrer plus la dimension sur la santé, sur le corps.
Oui.
Et encore une fois, pour moi, ça peut être intéressant parce que c'est une première manière de connecter les gens, de reconnecter les gens à leur corps.
Oui.
Mais si derrière, on n'invite pas les personnes, une fois qu'elles ont intégré ces pratiques, qu'elles ont réalisé que ça leur faisait du bien et qu'elles n'ont pas la curiosité d'aller creuser un peu plus et de voir quelles sont les origines de ces pratiques, ben là, pour moi, on est dans du whitewash. Parce que j'ai déjà été confrontée, moi, j'ai déjà proposé des projets de méditation dans des grosses applis de méditation, je ne citerai pas lesquelles. Et j'ai déjà eu des retours du genre « Ah oui, mais non, mais nous, on ne fait que de la mindfulness. On ne fait pas vos trucs là de mantra, de machin. De... » Et là, je trouvais ça un peu spécial comme retour, tu
Totalement.
Vois.
Mais oui. Ouais, c'est un peu à la carte, en fait, tu vois. C'est ça, on veut, ça on veut pas, ça on veut plus. Ça me fait penser à un truc, tu sais, dans les restos japonais, voilà, ici en France, en Europe, aux États-Unis, c'est les sushis, tu vois. Et quand j'étais allée au Japon, je me rappelle, je me disais, ah tiens, je vais manger les sushis qu'ils ont ici. Et tu te rendais compte que finalement, les sushis, bah, tu les trouvais pas partout là-bas, en fait. C'est pas du tout le plat emblématique du Japon, en réalité, quand t'es sur place, tu vois. Et ça, c'est un peu la même chose.
C'est comme le cheese naan en Inde. Il faut dire, moi, de là où je viens, à Pondichéry, le cheese naan, c'est pour les touristes, tu vois. C'est pas ce qu'on mange là-bas.
Bah oui, parce que je crois que c'est pas ayurvédique, genre, c'est ça ?
Non, mais surtout, oui, ça a été créé, c'est une construction pour les touristes, en fait.
D'accord. Ouais, on va leur mettre du fromage, ils adorent ça. Allez, hop.
Spiritualista.
Nathalie ? Est-ce que tu peux aborder pour nous et avec nous le fameux complexe de la sorcière ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors ça fait partie de tout ce qu'on devrait mettre en lumière dans l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas appris à l'école. C'est quand j'ai commencé à accompagner des femmes et que je m'étais plongée moi-même dans mon histoire, je me suis rendue compte que j'avais un rapport très particulier à l'énergie du feu, tempérament. On m'a souvent dit que j'étais une femme très feu, au profil guerrière, que voilà, quand je voulais quelque chose, je mettais tout en place pour y arriver. Les femmes que j'accompagne autour de moi sont un peu dans ce même profil. Et en fait, on a un rapport ambivalent avec ce feu. C'est à la fois notre force, mais en même temps, on a peur de se brûler. Oui, notre force, souvent, se manifeste. Quand on regarde la lecture ayurvédique, ce qui se passe dans les émotions, ça se manifeste aussi dans le corps physique. Et moi, par exemple, depuis toute petite, je souffrais de brûlures d'estomac. Je n'avais jamais compris, au-delà d'une raison purement physiologique, qu'on n'a pas trouvée d'ailleurs par la médecine occidentale, j'avais beaucoup de feu, en fait. Et toutes les situations d'injustice, ça a réveillé de la colère en moi, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et quand on commençait à cheminer sur... les accompagnements des femmes, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui, en extérieur, donnaient comme impression de maîtriser leur vie, de tout contrôler, de tout réussir, à l'intérieur, dans le corps par exemple, y avait des problèmes d'inflammation chronique, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, d'inflammation de peau. Beaucoup de femmes, par exemple, aujourd'hui souffrent d'endométriose.
Exact, oui.
Et en fait, quand on commence à se connecter à la symbolique du feu, on se rend compte que beaucoup de femmes ont peur d'être brûlées. Je ne sais pas si c'est ton cas d'ailleurs. Si
oui, absolument oui.
surtout quand elles sont sur le point d'exprimer une vérité profonde, une vérité qui peut déranger autour, que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu familial ou peu importe. Et en fait, ce qui m'a permis de mettre des mots et de comprendre ça, ça a été la lecture du livre de Mona Chollet, La puissance d'un être de femme.
Ouais.
Puis après, il y a une série de livres qui est sortie, Âme de sorcière, de Odile Chatrier.
Je les ai tous lus, j'ai vraiment commencé, ouais, quelque part, mon parcours initiatique avec ces autrices-là, oui.
Et en fait, en mettant en lumière ces dragons de l'humanité, donc de réaliser qu'il y a des milliers et des milliers de femmes et même des hommes qui ont été brûlés au moment du siècle des Lumières, ça rejoint un peu ce que je disais, nous, là. Les premiers grands voyageurs, tu vois, j'avais une forme d'idéalisation de Marco Polo, Christophe Colomb et tout. Là, pareil, je pense que dans l'histoire, à l'école, on idéalise le siècle des Lumières puisque c'est le début du progrès et tout. Mais derrière ça, on a aussi brûlé des gens qui avaient une connaissance et une connexion à la nature différente. Et je pense que d'un point de vue cellulaire, on a ces mémoires.
Oui.
Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui dans cette incarnation. Pour briller pleinement notre flamme, pour briller notre puissance et incarner nos différences, nos singularités. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ce chaos, je pense, nous permet de réintégrer cette part de nous. Et en nous connectant à l'égrégore des sorcières, moi je l'observe dans tous mes cercles de femmes, et c'est hyper puissant de nous relier, de guérir en fait tous les traumas qui ont été subis. En nous connectant à l'énergie d'amour, de reconstruction, ça nous permet aussi d'accéder quelque part à leur voix, à leur soutien pour notre mission aujourd'hui sur Terre. C'est hyper puissant, en fait.
Est-ce que tu penses, Nathalie, qu'on est les petites filles des sorcières qu'ils n'ont pas pu brûler à l'époque ? Est-ce que tu le ressens ?
Je suis convaincue, j'en suis intimement convaincue, Amel. Et en fait, en plus, moi, je rêve souvent de grands cercles de femmes avec un feu au milieu et tu vois, des cercles concentriques de femmes de partout dans le monde.
Tu sais que ça monte les larmes de t'entendre dire ça. Oui, c'est magique, c'est magnifique, oui.
Et tu vois, elles sont là, en fait. Toutes ces femmes sages, ces femmes médecine, elles coulent dans nos veines et elles ne demandent qu'une chose, c'est allez-y les filles, parce que en fait, là, vous ne craignez plus rien. Nous, on a été brûlés, ok, mais vous... Vous pouvez vraiment incarner vos talents et vos dons.
Waouh. c'est tellement, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, tu vois. Merci Nathalie, merci pour ces beaux partages, merci pour ta sagesse, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu offres aux vivants, à la terre, aux femmes, à la conscience collective. C'est tellement précieux, tu vois. C'est vraiment des trésors de bonté et d'amour. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai.
Avec grand plaisir. Si tu passes au Portugal ou en Guadeloupe.
Ah oui, génial. Tu sais que je vis à Barcelone, je ne suis pas loin.
On n'est pas loin, en effet. Ouais.
Merci d'avoir accepté mon invitation et de clôturer en beauté la saison 2 de Spiritualista. Je vous recommande de lire Devenir sa propre médecine, disponible aux éditions Erol. Je vous mettrai toutes les informations pour pouvoir suivre l'actualité de Nathalie Guita Babourage. Merci, je te souhaite un bel été.
Merci,
la mère. Une belle connexion au feu des saisons. Et tu es Pita aussi, Nathalie, c'est ça ?
Oui, alors je suis Pita, mais en fait, moi, j'ai commencé à lâcher cette classification, parce qu'en fait, on est tous les éléments.
Je sais, oui. Voilà. Oui.
Et pour prendre soin de mon feu, j'ai aussi besoin de ma terre, de mon eau, de mon air, de mon espace.
T'as complètement raison, oui. Merci pour cet épisode, Nathalie. Merci pour ta générosité. À très bientôt.
À très bientôt, Amel.
Spiritualista.
Et voilà, c'était le 45e épisode de Spiritualista, le dernier épisode de la saison 2. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous livrer ces épisodes toutes les deux semaines. Je tenais à remercier les invités de cette deuxième saison. Yannick Vérité, Léonard Reading, Elis Mila, Alexandra Frida, Amel du podcast The Inner Journey, Alexis Tournier, Ghislaine Duboc, Arwen Delaréo et aussi mon invitée du jour qui était Nathalie Kita Babourache. Je tenais aussi à vous remercier, vous, de l'autre côté, dans ta voiture, au travers de tes AirPods, chez toi, en train de cuisiner. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Spiritualista, à me soutenir, à m'envoyer des messages, à me faire confiance au travers des formations Mon Pendule et Moi pour apprendre la radiesthésie et aussi les 21 règles pour vibrer haut. Merci, merci pour votre confiance. Merci d'être là, merci de commenter, de liker mes posts, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Merci de partager avec moi vos lumières, votre amour. On est là, on est ensemble dans cette drôle d'aventure, dans cette incarnation un peu spéciale et j'ai super hâte de vous retrouver en septembre pour une saison 3 de Spiritualista. Je vais réfléchir à des idées, à de nouveaux concepts, à des choses un peu nouvelles. On restera autour de l'éveil de conscience et des partages autour de la spiritualité. En attendant, vous pouvez me retrouver toujours sur Instagram, en story ou au travers des posts. Je suis aussi présente sur TikTok. Vous avez aussi la Spiritual Letter, ma newsletter qui tombe dans ta boîte aux lettres tous les vendredis. Voilà, je te souhaite un merveilleux été. Je te souhaite de te connecter à toi-même. Je te souhaite de vibrer l'amour, la liberté, la vérité. Je te souhaite cet été de faire le plein de vertus, t'aligner avec les valeurs les plus chères à ton cœur. Je te souhaite de rêver, de créer. Je te souhaite de tomber éperdument amoureux et amoureuse de la vie. Je te souhaite de tout mon cœur qu'à chaque fois que tu croiseras ton reflet dans une flaque d'eau, dans un miroir, tu te dises « Waouh, j'ai un corps de forme incroyable. » Mais le plus beau dans tout ça, c'est tous mes corps énergétiques. Bon allez, je m'arrête là, je lâche le micro et je te dis à très très bientôt, ici ou ailleurs. Mouah.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.